Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Maugé.
Dans ce troisième et dernier volet des émissions consacrées au Québec, Axel Maugé parle du défi français vu du Québec. Ces émissions sur le Québec sont téléchargeables sur Canal Académie et elles sont basées sur le livre d'Axel Maugé, Le privilège du français, paru aux éditions Humanitas en 2007. Vous pourrez trouver cet ouvrage à la librairie québécoise de Paris.
En 1960, le Québec était à peine connu des Français. C'est de Gaulle qui, en 1967, lors de son fameux voyage, avons-nous souligné dans une partie précédente, a permis à cette nation française d'Amérique de reprendre ses marques. Grâce à ce geste naturel et amical, la France renouait des liens féconds avec son ex-Nouvelle-France. Depuis cette année historique, les relations se sont multipliées au profit des deux parties. N'est-ce pas encore le chef de la France libre qui avait prédiqué un jour la belle province visité chaque année par environ 400 000 touristes français, apporterait une contribution de poids à l'espace francophone. La lecture passionnante de l'essai « Le défi français » du Québécois Christian Dufour. Alors, Le défi français, édition Septentrion, Montréal, 2006, que l'on trouve aussi à Paris à la librairie du Québec, au 30 rue Gay-Lussac. Permet de vérifier à quel point les intuitions du premier président de la Ve République étaient justes. Une conviction profonde anime l'auteur, un enseignant à l'École nationale d'administration publique à Montréal, celle que quelque part, le Québec renferme en lui non seulement le passé, mais aussi une partie de l'avenir de la France. Il considère qu'il est grand temps de réagir en proposant de meilleures stratégies, puisque depuis 300 ans, notre pays a subi des revers importants, même si par chance, au moment opportun, des personnages providentiels de Talleyrand à De Gaulle en passant par Clémenceau ont permis parfois in extremis de minimiser les dégâts et encore mieux de redresser la situation. Christian Dufour s'étonne qu'un certain nombre d'intellectuels français et une partie des élites ne cessent de penser que la France est en train de décliner. Ce qui est vrai dans certains domaines, mais avec lui on peut reprocher à ces Cassandres de ne jamais apprécier à leur juste valeur les nombreux atouts dont dispose notre pays. Par exemple, un essayiste français bien connu, Maurice G. Dantec, installé au Québec, avoue dans un de ses essais, le théâtre des opérations Gallimard l'an 2000, sa déception pour la France qui selon lui est devenue un petit pays alors que c'était une grande idée. Quant au Québec, dont il semble a priori apprécier la liberté moderne, il lui apparaît cependant prisonnier de représentations engrangées dans la mémoire symbolique, génétique et historique des Canadiens français depuis les temps immémoriaux de la conquête. Contrairement à Christian Dufour, analyste subtil et cohérent, le français Dantec, aussi talentueux soit-il, apparaît-il plus comme un provocateur que comme un rénovateur. Pourquoi pas? Il n'est d'ailleurs pas le seul à être pessimiste pour l'avenir de la France, puisqu'une universitaire québécoise comme Régine Robin, dans une communication fort révélatrice de sa vision tronquée, met toujours la réalité de la France au passé. À la lire, et on la lit dans d'autres rêves, les écritures migrantes au Québec, acte du séminaire international du CISQ à Venise, 15 et 16 octobre 1999, sous les directions d'Anne de Vaucher-Gravilly, Supernova édition 2001, voilà pour la précision. À la lire, notre pays n'aurait pas de présent, encore moins d'avenir. Si Régine Robin, du haut de son balcon québécois, ressemble à une Madame Soleil passée par l'université, ses prédictions font froid dans le dos. Son analyse biaisée est d'ailleurs encouragée par l'indifférence affichée par un certain nombre de politiques de l'Hexagone pour qui l'idéal français a cessé d'exister comme une dynamique, voire une transcendance. Comparé à la démonstration solide et rationnelle de Christian Dufour, que nous allons continuer de vous présenter, les deux auteurs que nous venons de citer apparaissent peu scientifiques et peu cohérents. Ils illustrent hélas la faiblesse de nos soi-disant penseurs à la mode. Bref, ces deux essayistes et d'autres encore connus sous le nom de déclinistes n'ont visiblement pas remarqué l'influence de nouveau grandissante de la France après les terribles événements survenus le 11 septembre 2001. Au passage, soulignons que le Canada comme le Québec ont appuyé la politique française opposée à l'unilatéralisme américain, ce qui incite Christian Dufour à poser la question suivante. La guerre en Irak aura-t-elle été ou non un champ du cygne politique pour la France? Espérons que non, mais un doute subsiste. À nous de transformer cette opposition lucide face à une guerre stupide et meurtrière en proposition constructrice. Reconnaissons avec l'auteur que la France a perdu du XVIIIe siècle à aujourd'hui, selon les époques, du pouvoir dans ses trois grandes interfaces historiques, c'est-à-dire européenne, atlantique et méditerranéenne, coloniale, encore faudrait-il nuancer. Car notre pays, bousculé par les mutations, s'il a plutôt correctement réussi son entrée dans certains espaces de la modernité, en revanche, en a ignoré d'autres. Rappelons qu'avec 1% de la population de la planète, la France produit 3% du produit intérieur brut mondial. C'est également la première destination touristique de la planète, le deuxième fournisseur de services, le deuxième exportateur de produits agricoles et agroalimentaires, le deuxième pays d'accueil des investissements étrangers, la quatrième puissance commerciale du monde, le cinquième producteur industriel. Ajoutons que ses meilleurs équipements routiers, aéroportuaires, hospitaliers et de télécommunications comptent parmi les plus performants. Grâce au nucléaire, elle dispose d'une autonomie énergétique importante. Sans même parler des entreprises françaises qui se classent parmi les premières mondiales dans des secteurs clés de l'avenir, nucléaire, pétrole, gaz, aéronautique, pharmacie, assurance, traitement de l'eau, agroalimentaire, esthétique, luxe, tourisme. Quant à la qualité de la vie, elle est bonne. On peut, si vous voulez, s'intéresser à un livre publié récemment par Jacques Attali qui s'intitule « Une brève histoire de l'avenir, Fayard 2006 ». Lorsque l'on réalise les nombreux atouts de la France, l'on ne peut que s'étonner du pessimisme des déclinologues. Mais il ne faut pas le cacher, la France a également des faiblesses qui la handicapent pour affronter non plus la modernité, mais la mondialisation et ses chocs successifs. Les faiblesses sont réelles, par exemple avec seulement 18 millions d'actifs sur 65 millions d'habitants. Que dire d'une durée annuelle du travail qui est de 1600 heures, la plus basse du monde, paraît-il, à égalité avec l'Allemagne qui a pourtant, précisons-le, une économie très dynamique et exportatrice. Or, malgré ça, la France offre une des meilleures productivités horaires du monde. Il faut donc éviter les constats définitifs trop larmoyants. On peut s'étonner que notre pays ait trop souvent négligé l'industrie, le profit, la mobilité, l'innovation. Cette dernière existe, mais elle n'est pas encore assez encouragée. Et les technologies du mouvement. Quant au plus gros handicap de la France, il repose peut-être sur son énorme bureaucratie. En outre, notre pays a commis des erreurs en négligeant la marine et en n'appuyant pas assez les créateurs. Tels sont donc quelques-uns des points faibles de la France. Cela ne doit pas faire oublier le dynamisme de nombreux secteurs que les déclinologues passent sous silence pour mieux étayer leur thèse. En Europe, la France, qui a tant donné avec parfois un peu de naïveté, s'efforce à présent de se repositionner. Comme elle s'active à garder son influence dans l'espace méditerranéen, au sein duquel elle ne cesse de privilégier le dialogue des cultures. Et un dossier est intéressant à lire, Francophonie et mondialisation, revue Hermès, CNRS, édition 2004. Christian Dufour a certainement raison d'insister sur l'affaiblissement de la France dans son interface atlantique. La relation France-Amérique doit être revitalisée. Il en va de l'avenir du monde occidental. En vérité, pour avoir une vue claire, il ne faut jamais laisser de côté l'importance de la géographie qui permet de déterminer le poids réel d'un pays. Même si les États-Unis sont devenus une hyperpuissance, ils souffrent plus qu'on ne le croit de leur isolement territorial, puisqu'ils forment d'une certaine façon une immense île entourée par les deux plus grands océans de la planète. Il est regrettable que l'actuel président américain et mis tant de temps à intégrer que la situation de la France en Europe reste solide grâce à ses géographies et à son poids politique et culturel. Il est regrettable que les États-Unis aient ignoré qu'en matière de prestige et de rayonnement, l'espace en français occupe encore le deuxième rang en Occident. Nul doute qu'après les terribles événements survenus le 11 septembre 2001, les sociétés de langue française et l'Europe, plus que les États-Unis, continuent de jouer un rôle décisif dans le dialogue des civilisations et des identités. Lire Axel Maugé, Francophonie et Dialogue des cultures, Montréal, Humanitas, 2003. L'auteur souligne avec justesse que par rapport, je parle de Christian Dufour, que par rapport à l'anglosphère, le monde francophone véhicule une vision davantage politique de la liberté et de l'épanouissement tant collectif qu'individuel, une conception de la société moins liée au marché et au capitalisme, avec évidemment les contradictions inhérentes à ce genre de choix. Aussi, face à la mondialisation, parfois sauvage, l'État, notre fameux État, malgré ses déficiences, apparaît-il comme un facteur d'ordre et de stabilité, mais il aurait tout intérêt à être plus libéral et à subir une jolie cure d'amaigrissement. Les déclinistes, aussi bien en France qu'à l'étranger, devraient s'intéresser aux réussites françaises. Les connaissent-ils ? Il en existe d'étonnantes, comme par exemple celle liée à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, ESPCI. Cette petite école d'ingénieurs qui accueille à peine 70 élèves par promotion et possède un budget de 8 millions d'euros annuels, rien à voir avec les dizaines de milliards de dollars d'actifs dont disposent Harvard, Yale ou Princeton, a donné à la France pas moins de 5 prix Nobel, dont Pierre-Gilles de Gennes qui vient de s'éteindre et Georges Charpak. C'est à l'ESPCI que l'air a été pour la première fois liquéfié, que le sonar, la télévision et les premières boîtes noires de l'aéronautique ont été inventées. Il faut lire l'histoire de cette réussite dans un dossier publié par l'Institut Montaigne. Institut Montaigne, préface de Claude Bébéard, « Comment fait la France quand elle gagne ?» Plomb 2006. Il montre à merveille ce que c'est que le génie français. On peut croire en effet que pour la France, le principal défi à venir s'inscrit dans l'ordre politique, mais à condition d'y intégrer des domaines culturels et ce afin de tenter de réformer un système capitaliste handicapé par son extrême dépendance au développement de notre planète déjà en partie surexploitée. Fort de ses valeurs latines, différentes de celles du monde anglo-saxon, les sociétés francophones arriveront-elles à proposer, à appliquer des réformes économiques et sociales nécessaires afin de s'adapter au contexte mondial très évolutif et ce sans sombrer dans une ridicule opposition à la mondialisation. Il s'agit d'une des interrogations clés de cet essai de Christian Dufour, reconnaissons-le plutôt décapant. Mais ce n'est pas tout, car visiblement l'assiste québécois apprécie notre univers, dont il connaît l'histoire qui est en partie la sienne. Après d'autres, il constate que les Français n'ont jamais beaucoup émigré. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant longtemps, la qualité de la vie en France a été dans l'ensemble supérieure à celle des autres pays européens. Est-ce toujours le cas ? On peut espérer que oui. Si l'on en juge par le nombre de touristes qui rêvent de découvrir nos richesses culturelles et culinaires, si l'anglais parlait ici et là, le fameux globish, plutôt mal que bien, a en effet détrôné le français comme langue de communication, il ne l'a pas détrôné comme langue de civilisation. La France continue de compter car elle continue d'être très ouverte sur le plan culturel. Elle possède en effet une mémoire mondiale, un condensé d'histoire humaine, de Bernard Pivot au Festival de Cannes, en passant par Victor Hugo, André Malraux. Il faut lire d'André Malraux un livre très intéressant, André Malraux et la tentation de l'Inde, études, textes et documents réunis par Jean-Claude Perrier, Gallimard, avec l'aide de l'ambassade de France en Inde. Et ce livre a été publié en 2004. Et tant d'autres créateurs, elle offre un visage accueillant, tolérant et permissif assez unique. Même s'il est vrai que sur le théâtre européen, la France a perdu de son rayonnement, qui a été immense pendant des siècles plutôt que de déclin, parlons à présent d'un réalignement et d'un retour vers plus de réalisme, c'est-à-dire vers une vision plus gaulienne que giscardienne. Avec l'auteur, on pourrait presque dire aujourd'hui sarkozyenne. Avec l'auteur, il n'est pas faux de penser que notre pays a intérêt à réajuster son positionnement européen. Il en va de son avenir et accroître son influence auprès des États-Unis. Et je pense à un livre qu'il faut lire, Jean Guinel, Les pires amis du monde. Les pires amis du monde, il parle des États-Unis et de la France, Stock 1999. Bref, mieux s'insérer dans son interface atlantique. D'une façon générale, la politique française, si elle veut rester à la hauteur des visées de notre pays, ne devrait jamais oublier les avancées stratégiques d'un Talleyrand, toujours soucieux de garder à notre civilisation son influence en Europe. D'où l'importance de se repositionner vite et mieux en tenant compte des changements qui bouleversent actuellement nos trois interfaces. Avec Christian Dufour et d'autres auteurs comme Dominique Volton, je signale Dominique Volton un livre « Demain la francophonie, Flammarion 2006 », on peut reprocher aux dirigeants français de ne pas s'intéresser assez à la francophonie, un véritable trésor caché. La diversité culturelle contenue dans cet ensemble pluriel pourrait assurément conforter la position française, désireuse d'incarner de façon encore plus concrète un deuxième pôle politique en Occident, tout en devenant un pont privilégié entre ce même Occident multiple et le reste du monde. Ces dernières années, L'évolution positive de l'Organisation internationale de la francophonie, donc l'OIF, a permis de multiplier les dialogues. Un autre aspect intéressant de l'essai de Christian Dufour se trouve dans la volonté de l'auteur d'insister sur le renouveau toujours possible de la dynamique française, bien qu'il ne cache pas que le dogme intellectuel marxiste, un véritable carcan idéologique, a affaibli la force et l'originalité de la pensée française depuis plus d'un siècle. Montesquieu, Voltaire, Tocqueville, pensez à André Siegfried, notamment auteur du Le Canada, les deux races, Armand Colin, 1906. Siegfried, donc, Camus, Aron, des esprits libres, pour ne citer qu'eux, n'ont été que rarement les auteurs préférés de nos penseurs à la mode. C'est ce qui explique d'ailleurs la relative faiblesse de l'essai de Bernard-Henri Lévy sur l'Amérique, et je rappelle le titre du livre de Bernard-Henri Lévy, American Vertigo, le vertige américain, Grasset, 2006. De même, dans notre République radicale socialiste, c'est-à-dire centriste, assez timorée, on a souvent oublié les enseignements de Montesquieu, par exemple l'importance que ce dernier semble accorder à l'élément de diversité dans la faculté de régénération française. Une partie de notre force et de notre primauté, serait vain de l'ignorer, malgré les graves erreurs historiques commises, consiste à revenir parfois après bien des détours au rationnel. En Irak, les Américains, eux qui ont pourtant la réputation d'être pragmatiques, ont été irrationnels. C'est ce lien profond avec le rationnel qui nous a jusque-là toujours permis de rebondir après les désastres, les guerres de religion enterrées, Richelieu à Paris. Une fois la fronde passée, le règne de Louis XIV commence. Après le désastre de 1940, De Gaulle arrive à rassembler la résistance. Il est vrai que les rebonds de la France sont étonnants, comme d'ailleurs ceux du Québec. Remis en grande partie de ses blessures, bien longtemps après le désastre des plaines d'Abraham et des autres échecs subis. Nul doute que dans l'interface atlantique, le Québec possède une expérience dont la France pourrait tirer des enseignements précieux. Au cœur de la francophonie moderne, les possibilités du Québec apparaissent nettement. Fort de son héritage anglais, longtemps imposé, qu'il a su intégrer dans ses aspects les plus positifs, il a réussi non seulement à résister au sein de cette Amérique du Nord si anglophone, mais encore affirmer sa différence, même avec difficulté. Comment ? Tout simplement parce que le Québec est, du point de vue occidental, une vieille et authentique société nord-américaine. Ce que nous confie Christian Dufour apparaît essentiel. Il est juste de souligner que sur le plan de la construction de l'identité canadienne, les Québécois francophones furent les premiers Canadiens, les créateurs d'une nouvelle société déjà métisse ou métissée. Ils furent les premiers Européens à s'installer durablement sur les terres américaines et à les explorer avec courage. Les Britanniques, eux, commencèrent seulement à occuper de vastes territoires à partir de 1763. Jusque-là, seuls les Français et leurs alliés indiens connaissaient les régions reculées de l'immense Amérique. Il faut lire de Gérard Bouchard, « Jeunesse des nations et cultures du Nouveau Monde », Montréal, Boréal, 2000. Comment le Québec a-t-il aussi bien pu résister aux envahisseurs et aux immigrants de plus en plus nombreux ? D'abord, grâce à son énorme démographie qui traduit une volonté de survie exceptionnelle, les descendants des 65 000 Français de 1763 forment aujourd'hui en Amérique du Nord une masse d'environ, nous l'avons dit tout à l'heure, de 15 millions de personnes. 8 à 9 millions restent francophones au Québec et au Canada, tandis que 6 autres millions de descendants de ce noyau initial, mais en grande partie assimilés, vivent aux États-Unis. Ensuite, parce que le Québec, peuple d'origine française, fondateur de la première Amérique moderne civilisée, incarne à présent l'ambition d'une modernité non anglophone. Aussi, le combat peu étudié du Québec, nation ayant intégré certaines méthodes efficaces anglo-saxonnes et qui a su se démarquer malgré son isolement en Amérique, devrait-il servir de leçon à une France parfois hésitante en ce qui concerne la diffusion des qualités françaises dans le monde ? Mieux que quiconque, dans les années 1960, le général de Gaulle avait nettement perçu les potentialités du Québec. Rien d'étonnant à ce que des milliers de Français, de jeunes Français, dynamiques et entreprenants, décident à présent de relever les nombreux défis d'une société qui a le vent en poupe. L'auteur, du haut de son balcon québécois, laisse volontiers de côté la langue de bois. Il n'est pas tendre avec la gauche française, une gauche caviar, un mouvement de fonctionnaires carburant à la moralisatrice langue de bois. De même, il égratigne au passage la droite chiracienne, qui bien sûr maintenant est balayée, si peu déterminée, notamment à abolir ou à aménager au profit de tous la loi sur les 35 heures, une aberration pour de nombreux métiers. très juste aussi sur les propos de Christian Dufour sur les points forts de la civilisation française, qui d'abord se rattache à un passé souvent glorieux, à la mémoire donc, qui ensuite n'est en rien fermée à la modernité et qui enfin reste dubitative face à un capitalisme excessif. Il faut souligner que la civilisation française offre à ses nombreux visiteurs quelque chose que le reste du monde n'est pas capable de leur donner, du rêve notamment, de la beauté, une forme, une façon d'être et une histoire fascinante. La France, et c'est sa chance, n'a pas perdu le fil qui permet à la civilisation de perdurer. Être civilisé, c'est pouvoir se transformer, évoluer, ne pas laisser de côté ses émotions, continuer à créer aussi bien de nouveaux objets technologiques que de l'imaginaire. Être civilisé, c'est refuser l'uniformité, garder sa confiance dans les possibilités du culturel, préférer l'action au renoncement. Malgré ses nombreuses qualités, la France, pays de civilisation, pourrait être encore plus civilisée. Et si, à bien y penser, pour reprendre les paroles de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, dont l'œuvre est présente dans 34 pays, être civilisé, c'est reconnaître la valeur des plus faibles, les French doctors, ne continuent-ils pas à témoigner avec une rare noblesse et générosité de notre volonté d'être civilisés? Et pour terminer, venu d'un Québécois descendant de nos ancêtres français, découvreurs et bâtisseurs de la Nouvelle-France, de tels propos sont à apprécier. Ils portent sur l'avenir de notre pays, l'avenir de la francophonie. Cet essai original, digne d'éloge, illustre à merveille que la civilisation française a su finalement, envers et contre tous, garder en Amérique du Nord une substance qui a été enrichie par des cousins dont nous pouvons être fiers. Il faut souhaiter que Christian Dufour devienne l'alter ego d'André Siegfried, mais cette fois en traversant l'Atlantique dans le sens inverse. Dans les prochaines années, nul doute que Christian Dufour nous réservera de belles surprises.